C'est la première fois que dans le récit biblique, il y a, et ce fut au huitième jour, c'est dans le récit portant sur la génération du désert, lorsque Israël a pu construire le temple de la rédemption au temps de la sortie d'Égypte. On a construit le temple de la rédemption, et alors la Bible dit, ce fut au huitième jour qu'il a été inauguré, vous voyez, au huitième jour, mais voilà, on n'a pas su exactement comment il fallait faire le sacrifice de la rédemption, et le sacrifice a échoué, alors ça a été une catastrophe. Et chaque fois qu'on a dit c'est déjà le huitième jour, eh bien, on ne sait pas exactement comment faire. Je vous parle en langage rituel, en langage symbolique, mais vous comprenez certainement les notions qui sont derrière. Chaque fois que le temps est arrivé de faire le sacrifice de la rédemption, on ne sait pas très bien comment le faire, alors il échoue. Et j'ai en mémoire beaucoup d'analyses d'Elie Wiesel à ce sujet, où très souvent il dit que ce qui s'est passé dans notre histoire, eh bien, c'était le sacrifice de la rédemption, et que par conséquent, c'est moi qui ajoute. Donc le huitième jour peut commencer, mais à condition qu'effectivement cela soit réussi. Enfin, je reviens, si vous voulez, à l'analyse elle-même. C'est que Israël a très souvent essayé cette tentative de faire advenir le huitième jour. Il y a jusqu'à présent toujours eu échec. Et nous avons vu déjà hier soir, d'autre part, à propos d'une des questions qui m'a été posée hier soir, qu'il y a toujours un faisceau de raisons à cela, mais en particulier une raison qui vient de l'extérieur, de la réalité des autres, ensemble humain, et d'autre part une raison qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire l'incapacité d'Israël à être authentiquement lui-même, une fois pour toutes. Et nous avons vu que cela résulte du décalage entre l'envergure individuelle et l'identité collective d'Israël. L'identité collective d'Israël était éternellement sainte. Les chrétiens disent éternellement vierge. C'est ça qui parle, de la matrice d'où est issu le Fils de l'homme, c'est-à-dire Israël, pour nous. Par conséquent, l'identité d'Israël, et dans le deuil d'ailleurs, très logiquement, le nom de la sœur de Moïse, c'est pas pour rien. Mais l'identité d'Israël est éternellement sainte, mais à l'échelle individuelle, il y a la cause possible de tous les échecs possibles. Et finalement, la société concrète, terrestre, historique, c'est l'ensemble des individus, avant d'être l'incarnation définitive de l'identité collective. Et il y a donc une raison extérieure, ce conflit de rivalité, dont le conflit avec la Grèce a été un des sommets, et d'autre part, la raison intérieure de l'incapacité d'être, si j'ose dire, à la hauteur de la tâche. Et je crois que la tâche qui se posait à Israël est beaucoup plus considérable que la tâche qui se posait à la Grèce. Si j'osais, mais je dis cela vraiment sans ironie, sont nombreux les fils d'Israël qui peuvent faire le travail des Grecs et y réussir, jusqu'à arriver à avoir le prix Nobel. Mais n'existe pas les fils des Grecs qui seraient capables de faire le travail d'Israël. Si j'ai bien défini les deux tâches différentes. Je suis extrêmement frappé. Je voudrais vous parler de la cérémonie à laquelle j'ai assisté à Jérusalem jeudi dernier, et qui était une cérémonie consacrée à honorer le président Kassin, qui, comme vous le savez, a été nommé prix Nobel de la paix en raison de sa lutte pour les droits de l'homme. Vous voyez que c'est ça, c'est le travail d'un juif. C'est extraordinairement frappant, et pas de n'importe quel juif, puisqu'il se dénomme lui-même président de l'Alliance israélite universelle. Je crois très profondément que tout ça ne sont pas des coïncidences. L'hommage qu'il a reçu du monde entier et finalement a été certainement spectaculaire à Oslo, mais il était extrêmement profond à Jérusalem. Et je souhaite que les discours qui ont été prononcés soient édités, en particulier le discours de l'ambassadeur de France, qui a dit avec beaucoup d'émotion et beaucoup de fierté à quel point il était fier de faire partie du même peuple que le président Kassin. Mais c'est surtout l'intervention du président de la Cour suprême, le Chaim Cohen, qui m'a frappé sur ce point de l'analyse. Il a très profondément analysé ceci, c'est que finalement le jury du prix Nobel a compris ceci, c'est que la paix ne peut exister vraiment. La seule stratégie, si vous voulez, qui puisse assurer la paix, c'est la conquête des droits de l'homme. Alors que cette liaison, si vous voulez, entre la paix, qui est l'objectif de la messianité de l'histoire humaine, et d'autre part les droits de l'homme, c'est-à-dire la morale. Cette relation entre la paix et les droits de l'homme, c'est finalement le monde entier reconnu que c'était le président Cassin en tant que juriste d'une certaine mentalité, bien entendu française aussi, mais quand même juriste d'une certaine mentalité qui a réussi en tout cas à la faire triompher au niveau des idées. Et cette analyse de Chaim Cohen était extrêmement importante. Nous avons entendu vraiment une grande leçon de philosophie du droit qui a été donnée en présence donc de l'ambassadeur de France et qui indiquait la source de cette liaison, de ces deux notions entre la paix et les droits de l'homme. Et cette source, c'est l'identité du génie hébraïque, de la prophétie hébraïque, des prophètes de Dieu. Eh bien, je reviens donc au problème. Je crois qu'il faut bien prendre conscience de cela. Il y a une sorte de déséquilibre dans cette collaboration des sages, si j'ose dire. Les sages de la Grèce ont fait la science, mais voilà, ils ont fait aussi la philosophie. C'est-à-dire une certaine doctrine concernant l'esprit, mais qui procède des postulats de la pensée de la science, c'est-à-dire de la raison impersonnelle. Et cette doctrine procédant de la pensée scientifique, la philosophie, s'est projetée comme rivale de la pensée prophétique d'Israël. Je reprends cette même analyse sous d'autres formes. Autant l'esprit, la pensée scientifique, en tant qu'elle est positive, est compatible avec la notion monothéiste que le génie hébraïque s'est faite du monde, c'est le même Dieu qui a créé les phénomènes de la nature et la personne humaine, et par conséquent, lorsque l'esprit humain entreprend l'exploration des phénomènes de la nature, il entreprend l'exploration de la volonté du Créateur, et par conséquent, l'œuvre de la science, comme l'ont fait les Grecs, mais comme l'ont entendu les Hébreux, l'œuvre de la science est une œuvre sacrée pour la créature, puisque cela consiste pour la créature à tenter d'explorer la volonté du Créateur en tant que créateur. Je pense que c'est suffisamment clair, n'est-ce pas ? Et nous savons que pendant tous les siècles d'obscurantisme de l'histoire humaine, les kabbalistes faisaient la science, et parfois même une science expérimentale très poussée, puisqu'on raconte que certains des kabbalistes des siècles précédents s'éclairaient à l'électricité. Mais et d'autres choses, encore. Mais il le faisait bien entendu clandestinement, puisqu'il risquait d'être brûlé comme alchimiste. Mais quoique le Kabbalah proprement dit n'a rien à voir avec la science expérimentale ou l'alchimie, mais enfin, déjà, quand on étudie la Kabbalah, on peut peut-être aussi inventer la pile Volta. Mais pour revenir au problème, c'est le fait que les kabbalistes, avant de faire leurs expériences de laboratoire, avant de faire de la science, qu'elle soit mathématique ou physique ou biologique, eh bien, prenez un rituel de purification, prenez la tevila, allez au mikvé, parce qu'ils avaient conscience qu'ils faisaient œuvre sacrée. Ils allaient entreprendre de déchiffrer la volonté du Créateur. Et vous voyez dans quelle mentalité nous nous trouvons, très différente du dualisme contemporain. Je veux dire que le langage scientifique, lorsqu'il est lui-même, lorsqu'il est positif, lorsqu'il dit positivement la réalité des phénomènes, il est, si j'ose dire, kasher. C'est lorsqu'il est interprétatif, lorsqu'il devient philosophique, lorsqu'il donne une interprétation du phénomène, alors qu'il devient incompatible avec les intuitions profondes de l'identité hébraïque, pour qui il y a un créateur qui dirige le monde et non pas l'impersonnel des lois, purement et simplement. Mais ce que je voulais mettre surtout en évidence, c'est que l'antagonisme hébraïque hellénistique n'était pas du tout au niveau du projet de la science. Très tôt, cela a été reconnu comme étant la part de Japhet. Ça a été reconnu comme étant la tâche de Yavam. Et les Chachmé Israël, les sages d'Israël, et d'autre part les Chachmé Yavam, les sages de la Grèce, ont eu, nous le savons, des colloques très, très fraternels et très intimes. Les sages d'Israël reconnaissaient aux sages de la Grèce leur propre spécialité, si vous voulez. C'est l'esprit humain dont l'identité grecque est devenue telle qu'il était capable de forger l'instrument de l'exploration du monde impersonnel des phénomènes. Alors que l'esprit humain, dans l'identité d'Israël, est destiné, lui, à une toute autre tâche. C'est d'explorer le monde des valeurs, d'explorer le monde de l'esprit, d'explorer le monde de la personne et de la liberté, et par conséquent, donner la loi morale. Et le conflit est apparu, non pas lorsque les Juifs se sont occupés de science, le conflit est apparu lorsque les Grecs se sont occupés de philosophie, si j'ose dire. Effectivement, c'est à ce niveau-là qu'il y a eu incompatibilité des mentalités. Et je pense qu'il y a là, si vous voulez, du point de vue épistémologique, il y a une indication que je voudrais donner aux étudiants en philosophie ou en philosophie des sciences, pas, que ce conflit entre la mentalité hébraïque et la mentalité grecque ne porte pas au niveau de la méthodologie des sciences, ne porte pas au niveau de l'épistémologie. Et vous savez à quel point l'esprit juif a été porté vers le problème de l'épistémologie, puisque les grands noms de la fondation de cette discipline sont de nouveau des juifs. Et en particulier, on ne peut pas ne pas citer Meyerson, qui a été le fondateur de l'épistémologie. Mais le conflit a porté sur l'interprétation de type philosophique de la vérité et de la réalité du monde. Là, ce n'est pas le génie grec à l'échelle de l'universel qui a parlé, là, c'est le génie grec à l'échelle le plus spécifique de l'ethnie grecque, de la langue grecque, de l'originalité grecque, mais de la spécificité grecque. Et au fond, c'est le triomphe normal et, comment dire, le triomphe légitime de la pensée scientifique grecque qui a véhiculé avec lui dans l'histoire, mais de façon aberrante, le triomphe de la philosophie grecque. Alors que les problèmes de la philosophie, les problèmes de l'exploration de l'esprit, étaient le propre des prophètes d'Israël et non pas des savants de la Grèce. Et ceci, c'est une analyse qui a été mise en forme en hébreu par le Rav Kner, qui est un des Rachei Yeshivot en Amérique, de la Yeshiva de Bar-Ilan d'Amérique, du Rav Chaim Berlin. Bien, alors je voudrais pousser de nouveau cette analyse. Je crois que là où nous devons être mis en garde concernant ce problème, c'est le fait qu'il s'agit là de deux tâches différentes qui ont deux objectifs différents. Et au fond, le bilan de l'histoire universelle actuellement est le suivant. Au niveau des sciences de la matière, réussite. Je ne sais pas si les Martiens ou les Vénusiens sont à l'écoute, mais doivent applaudir à la réussite de l'humanité terrestre, sortie de leur point de vue de la bestialité pour arriver à une science comparable à celle des héros de l'Antiquité, puisque finalement on va arriver sur la Lune. Mais voilà, au niveau de la tâche qui était proposée à Israël, il y a échec. Et je disais déjà tout à l'heure, ça ne signifie pas, bien entendu, que le génie d'Israël ne soit pas capable de réussir sa propre tâche. D'autant plus qu'il l'a déjà fait. Et c'est par le fait que se sont produites, à travers l'histoire, un certain nombre de rivalités spécifiques. Et je pense que l'on peut déjà comprendre cela de cette manière. C'est que pourquoi les autorités de la société juive de ce temps ont jugé que la Hanouka, le rite de la réinauguration de la lumière, devait, à partir de cette époque, commémorer cet épisode-là, c'est que grâce à Judas Maccabi et à la famille des Asmonéens, l'identité grecque n'a pas annulé l'identité d'Israël, et que cela a une portée messianique, et que cela est à inscrire dans l'ordre de l'histoire humaine universelle, en vue de la fin des temps, de telle sorte qu'effectivement soit préservé ce que le génie d'Israël avait à dire dans sa propre tâche, dans l'économie de la messianité universelle. Je dirais, et je citerai de mémoire le verset de la Bible qui a été utilisé à la base de ces analyses, c'est lorsque Noach prophétise pour ses enfants, donc Noé est l'ancêtre selon la Bible des trois grandes lignées humaines, Sem, Japhet et Ham, les Hamitiques, les Sémitiques et les Japhétiques. Lorsqu'il prophétise pour ses enfants, il dit ce qu'est leur identité telle qu'elle se déploiera dans l'avenir. Ce sont ses enfants, il les connaît. Eh bien, il dit de Japhet, Il dit Yaft Elohim le Yefet, Veishkon Veoleshem. Il dit ceci en hébreu, il s'adresse à Dieu en disant Dieu a fait une belle chose, Yaft, c'est intraduisible. Tu as embelli, si vous voulez, c'est pas embelli, parce qu'il faut être déjà beau pour être embelli. Ça veut dire rendu beau. Hein? Tu as beauifié, je sais pas comment dire. Non, parce qu'il faut être déjà joli pour être enjolivé. Ben, tu as rendu beau, tu as donné la beauté à Japhet. Japhet, ça signifie beau en hébreu. Vous voyez tout de suite l'esthétique grecque qui apparaît derrière ce concept. Pas comment le vocabulaire biblique définit la Grèce comme étant le génie humain se préoccupant de la beauté. Alors tu as fait une belle chose pour Japhet, Veishkon Baoleshem. Et il résidera dans les tentes de Shem. Et il résidera dans les tentes de Shem. Et les tentes de Shem, c'est la maison d'études, les tentes. Ça veut dire qu'il y a deux tâches humaines à réussir. C'est par Shem que passe la tâche de l'exploration, si vous voulez, des problèmes de l'âme. Donc finalement, la morale, les sciences humaines. Hein? Mais c'est par Japhet que passera finalement la maîtrise de la connaissance de la nature. Vous voyez qu'il s'agit là véritablement de deux identités humaines différentes dans leur essence et dans leur nature, et lorsqu'elles se projettent au niveau de l'esprit, de deux univers mentaux radicalement différents. Et vous voyez ce que dit Noir dans le verset biblique. Il ne dit pas que c'est Shem qui séjournera chez Japhet. Ce serait la consécration de la diaspora, ce n'est pas le cas. Il dit l'inverse. Il dit que c'est, comment dire, que c'est Japhet qui séjournera dans les tentes de Shem. C'est-à-dire que l'héritage de Japhet sera accueilli et intégré par Shem. Et je pense que c'est ce qui se produit actuellement dans la société juive et dans la société israélienne en particulier, puisque ce type d'homme héritier des Hébreux de la Bible se trouve à un des plus hauts sommets de la pensée scientifique telle que les Grecs l'ont formulée. Je pense que c'est suffisamment clair. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir, un article qui a été écrit par M. Amar, et qui est paru dans Information juive il y a peut-être 2 mois, ce n'est pas ceux d'entre vous qui l'ont lu, où il fait une analyse des problèmes entre la gauche européenne, et en particulier la gauche française, Israël et les pays du tiers-monde, une analyse vraiment très, à la fois courageuse et très lucide et très claire, hein, et où il dit ceci, la différence qu'il y a entre Israël est un des pays du tiers-monde, ou si vous voulez, pour citer sa phrase, la différence qu'il y a entre Israël et un pays sous-développé, c'est qu'Israël est un pays surdéveloppé. Et que c'est la raison pour laquelle, bien que ne se situant pas dans l'Occident impérialiste et colonisateur, il est du côté de l'identité occidentale dans la problématique de la gauche française. Enfin, je schématise beaucoup ce qu'il a voulu dire et qu'il a très bien expliqué. Et alors, il donne finalement comme conséquence, eh bien, en particulier les Juifs de gauche, ont une option très douloureuse à faire et très difficile à faire. Il faut savoir que c'est comme ça que cela est, les choisir. Eh bien, bon, je referme cette parenthèse, mais j'étais extrêmement frappé par cette analyse. C'est que en Israël, ce qui a été le génie de la Grèce a non seulement été accueilli avec reconnaissance, ce qui a été le cas, ou peut-être pas toujours avec reconnaissance chez les autres, le cas de tous les hommes qui ont reçu des Grecs et de leurs satellites, les sociétés occidentales, la science. Enfin, je pense que l'humanité tout entière, que l'on soit au Mali, au Congo, à Madagascar ou en Birmanie, on sait que c'est aux Grecs et donc aux Blancs que l'on doit, à Japhet, que l'on doit être reconnaissant de disposer de la science. Hein? En tout cas, je disais, pour parler d'Israël, non seulement Israël est reconnaissant à Yavan d'avoir fait la science, mais les hommes de notre société juive se situent à l'extrême pointe de cette tâche de la Grèce, c'est-à-dire faire réussir la mathématique. Et vous savez à quel point la valeur des hommes juifs lorsqu'ils font la mathématique peuvent être très grandes. Alors, encore une fois, c'est le petit problème qui a été donné à la Grèce à résoudre. Parce que faire la mathématique, finalement, il suffit d'être homme pour la faire. Mais faire la Torah, ça, il faut être juif. Maintenant, revenons à notre projet. Il y a eu, si vous voulez, une rivalité, et on a craint donc à cette époque que ce que portait l'identité d'Israël disparaisse. et que cette prophétie de Noir ne puisse pas trouver sa solution et que par conséquent le déluge recommence. Et il y aurait eu déluge de feu après le déluge d'eau, comme dit comme disent toutes les traditions de toutes les sociétés antiques, si effectivement la Grèce était seule et à la manière de la Grèce à travailler au niveau de cet âge de l'esprit humain, il y a très longtemps que la planète aurait été embrasée si il n'y avait que cet esprit de la technique et de la mécanique, s'il n'y avait pas l'autre côté de l'identité culturelle qui vient d'Israël, l'ordre des valeurs morales. Mais nous sommes, si vous voulez, sur un monde qui a deux pieds, un grec et un juif, si j'ose dire, mais un des pieds boiteux, c'est le pied de Jacob. Un des pieds est plus faible que l'autre. Et je reprends donc le verset de Noir, c'est qu'il n'est pas dit que Shem séjournera dans les tentes de Japhet, il est dit que Japhet séjournera dans les tentes de Shem. La Gemara dit, et quelle est la beauté de Japhet? La beauté de Japhet, c'est Yavan. C'est-à-dire au temps du Talmud, on a diagnostiqué que c'était bien dans la société grecque qu'était apparu le summum de l'identité que Noir avait vu chez Japhet. Voilà le drame dans lequel nous nous trouvons actuellement. Et c'est le problème des sciences humaines. Je pense, dans toute cette analyse, je pense très profondément au professeur Baruch, parce que c'est le premier dans notre temps qui a eu le courage de poser le problème de cette manière. Je parle du professeur Baruch. Les sciences expérimentales, bien, c'est la raison impersonnelle. Mais les sciences de l'homme, les sciences humaines, et en fin de compte la morale, et nous savons pourquoi d'autre part ça doit passer par la psychiatrie, mais en fin de compte la morale, eh bien cela, ce n'est pas du tout à la manière de la science expérimentale qu'il faut la faire. C'est un tout autre génie qui seul peut réussir la morale en tant que telle, et cela c'est le génie hébraïque. Et d'ailleurs nous savons, comme je vous l'ai dit souvent déjà cette semaine, nous savons que les grands moralistes qui ont pensé à la manière des Grecs ont désigné les valeurs qu'ils ont désignées à la manière des Juifs, et non pas à la manière des Grecs. Ils parlaient des valeurs juives à la manière grecque, si vous voulez, en d'autres termes. Lorsque Descartes parle de la morale, lorsque Kant parle de la morale, il en parle comme un grec, mais il désigne les valeurs morales qu'il a apprises des Juifs, enfin qu'il a apprises de la Bible. Les Juifs, lui, Descartes ne les aimait pas beaucoup, pas plus que Pascal, pas plus que Kant, pas plus que Spinoza d'ailleurs, et si peu Bergson, mais enfin, en fin de compte, vous voyez quel a été le drame de cette histoire. Bien. Alors, je voudrais donc terminer cette analyse-là, et surtout sur ce flash, si j'ose dire, au fond, nous vivons de nouveau le problème de qui s'est passé au temps des Maccabées. Hein? Parce que le problème, c'est quel sera l'avenir des sciences humaines, surtout dans un temps où les sciences de la nature ont un progrès aussi considérable. Ce qu'il y avait, il est en conflit, c'est que peut-être cette identité qui seule porte en elle le secret des sciences humaines risque d'être annulée. Et de nouveau, c'est le problème qui se pose dans notre temps. Et de nouveau, la question messianique se pose, est-ce que de la société d'Israël sortira la formulation de la méthodologie des sciences humaines à l'échelle de l'humanité tout entière, alors que déjà l'humanité tout entière possède la formulation de la méthodologie des sciences de la nature grâce aux Grecs. Il s'agit au fond, ce n'est pas seulement un jeu de mots, de savoir s'il n'y aura que des Olympiades ou s'il y aura aussi des Maccabiades. Bien, vous avez la parole. Donc.
Oui, je ne sais pas si je peux dire ce que je vais dire, mais vous m'arrêterez si vous voyez ce que je veux dire. Ouais.
Pas encore, mais ça vient.
Il y a à peu près 2 heures que vous abordez. Il y a à peu près 2 heures que vous abordez là-bas et vous avez dit certaines choses. C'est pour ça que je prends cette précaution.
Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais enchaînez.
Bon, en somme, la dualité que vous avez exprimée pendant à peu près 3 quarts d'heure sur la nature des valeurs grecques et juives, c'est un petit peu, ça rejoint le principe mâle-femelle.
Oui, alors je vous arrête parce que moi je pense que je vous comprends, mais le vocabulaire n'est pas très très adapté aux analyses.
Justement, parce que si je développais, ça serait trop long.
Oui. Écoutez, posez-moi directement la question que vous voulez poser. Oui, je sais. S'il vous plaît.
Tout à l'heure, vous avez dit que la question se pose si Israël va pouvoir réaliser.
Écoutez, je vais répéter la question.
Oui, alors ensemble, tout à l'heure, vous avez exprimé le doute, n'est-ce pas, que Israël, il n'est pas très sûr qu'Israël puisse réaliser sa mission d'apporter les sciences, d'accomplir les sciences humaines. Bon. Or, par rapport aux sciences grecques, à la personnalité grecque, si vous voulez, Israël peut symboliser le principe mal, de même que Dieu symbolise le principe mal par rapport à Israël. Vous le savez, ça.
S'il vous plaît.
En vertu du principe que le principe femelle d'Israël ne peut pas vaincre le principe mâle de Dieu, il va donc de soi qu'avec une certaine longueur de temps, le principe femelle de la personnalité grecque ne peut pas écraser, parce qu'il dominait le principe mâle d'Israël.
Bon, c'est très clair, oui. Écoutez, je vous réponds. Je vous pose la question. La question est la suivante. D'après l'analyse que j'ai faite, il semblait que je portais un doute sur la capacité pour Israël de réussir dans sa tâche, alors que j'avais décrit abondamment la réussite spectaculaire de la tâche grecque, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas du tout un doute que j'ai porté. J'ai posé une question. J'ai dit que c'est l'état de la question. Et il suffit, de prendre conscience de la durée et de l'intensité de la ferveur messianique et de l'espérance messianique d'Israël à travers les siècles pour savoir qu'il porte en lui la certitude qu'en fin de compte, il arrivera au bout. Et j'ai donné tout à l'heure l'image de Jacob boitant parce qu'il a été atteint à la hanche par un ange qui était cousin de l'ange de la Grèce. Tu vois finalement, nous savons qu'à la fin de l'histoire, Jacob arrive parfait, guéri et guéri, oui. Et non seulement guéri, mais victorieux, et c'est lui qui est nommé Israël. Et bien entendu. Et seulement, voilà, le problème, c'est que, alors que beaucoup d'hommes ont la compétence et la vocation de faire accélérer la réussite de la tâche hellénistique, trop peu encore ont la vocation d'accélérer et de faire réussir la tâche d'Israël en tant que telle. Qu'on me comprenne bien, je ne dis pas qu'il n'est pas normal d'avoir une vocation scientifique en Israël, j'ai dit tout le contraire. Mais je dis que ce qui est anormal, c'est qu'il y ait si peu de vocations talmudiques. Vous allez me dire, il y a énormément d'élèves dans les yeshivot. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit qu'à la hauteur des problèmes qui se posent à l'humanité tout entière, que nous ayons suffisamment d'hommes de valeur capables de formuler la Torah pour l'humanité tout entière. C'est à ce niveau-là que ça se passe, et que c'est finalement le défi qui est lancé à la société d'Israël contemporaine. Arrivera-t-elle à dépasser très vite l'étape préhistorique, d'installation matérielle pour aborder les tâches spécifiques de la société d'Israël, ce que nous nommons la messianité de Judas après la messianité de Joseph. Nous sommes en plein temps de la réussite spectaculaire de la messianité de Joseph et nous sommes au bord, mais c'est plus qu'impatience, c'est urgent, que la messianité de Judas commence à réussir. Je ne sais pas si j'ai compris. Et effectivement, il y a dans Judas un principe plus mâle qu'il n'y a dans Joseph. C'est exact. Bien. Oui, il y a une autre question.
On a posé deux questions, elles sont dans le même esprit. Vous avez dit qu'en gros, que la fête de Hanouka se faisait dans un esprit messianique. Je pose la première question qui est la suivante. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas admis le livre des Maccabées dans la Bible, si justement ce livre traite d'un événement si important. Et deuxièmement, comment se fait-il que vous avez dit que Pourri, par rapport à Hanouka, annonçait moins de messianité, pour ainsi dire, alors que par ailleurs, dans la tradition, on nous dit que l'une des fêtes.
La seule qui
sera réalisée dans les temps messianiques sera Pourri, parce qu'elle se trouve au-dessus du temps, elle se fait aussi bien le 13 au 14 ou le 15.
Oui, sans aller jusqu'à cet argument, votre question est sérieuse, effectivement. Alors, je vais répondre à la première. C'est que le livre des Maccabées a été rédigé après la clôture du temps prophétique. C'est-à-dire, en aucun cas, il ne peut être considéré comme un livre biblique, puisque toute cette histoire se passe bien après la clôture du canon biblique. Et d'ailleurs, historiquement, si vous voulez dire logiquement, dans la cohérence du canon biblique, le dernier livre intégré à la Bible, c'est le livre de Pourim, c'est le livre qui raconte l'histoire d'Esther, la Megillah. Par conséquent, il n'était absolument pas question qu'un livre comme le livre des Maccabées, qui est un livre sympathique d'ailleurs d'autre part, en fait je veux dire qui est un livre de foi et qui est un livre juif, quoi qu'il y ait des doutes, vous savez, à propos de ces questions d'histoire scripturaire, pour ne pas dire littéraire, il y a différentes écoles, soit intégrées dans le canon biblique. Et à la limite, j'irais jusqu'à dire que pour ne pas qu'on croie que c'est un livre à la manière du livre de la Bible, il a été pratiquement mis à la Gnisa. Il y a une autre raison. Il n'y a pas seulement le fait que il n'y a pas de livre de la Bible qui parle de l'événement des Maccabées. Et ça va de soi, parce que le temps de la clôture du canon biblique était déjà arrivé depuis longtemps. Verasu Siyag la Torah. Et ils ont fait le Siyag la Torah. Au temps de l'Anshik Neset Agadola. Et l'histoire de Maccabée se base beaucoup plus tard. Mais il y a le fait que le Talmud lui-même parle très peu, comme je vous ai dit au début, parle très peu de l'épisode de Maccabée. Enfin, ce serait une toute autre analyse, je voudrais très schématiser la réponse. C'est que l'événement qui a permis à l'identité d'Israël de survivre malgré l'Empire grec a été considéré comme un événement d'ordre messianique, mais ce qui en est résulté a été quand même un échec en ce temps-là. C'est que la dynastie installée par les Maccabées a finalement échoué, puisque l'État juif de ce temps-là a été détruit par Rome. Et ce n'est pas tellement la destruction par Rome qui a disqualifié aux yeux du Talmud l'épisode des Maccabées, c'est les raisons pour lesquelles cette destruction est apparue. C'est-à-dire la société d'Israël n'a pas réussi à, si j'ose dire, exploiter sa victoire en ce temps-là, n'a pas réussi à authentifier son identité, ou si vous voulez, n'a pas réussi à faire que la victoire de Judas Maccabée et de sa famille devienne un triomphe. Je suis en train de remarquer qu'il s'appelle Judas, mais il n'y avait pas Joseph Maccabée. Mais effectivement, il y a des raisons internes à la société judéenne et à la dynastie asmonéenne qui a suivi le temps des Maccabées qui fait que finalement, l'état juif de ce temps-là a échoué, a été écrasé par Rome. Mais comme en ce temps-là, il est resté une petite fiole d'huile cachée à travers 2000 ans, qui a pu, si vous voulez, brûler pendant 2000 ans, le temps que nous arrivions au temps où l'on peut préparer de nouveau la nouvelle moisson d'huile. J'arrive à la deuxième question. Rappelez-moi votre deuxième. Oui. J'avais dit que la tradition a assigné à Hanouka une portée messianique certainement plus considérable qu'à Pourim. Mais nous avons d'autre part un midrash qui dit qu'au temps du Messie, il ne restera que deux moments significatifs du calendrier, le jour de Kippour, Yom HaKippourim, et le jour de Pourim. Kippourim et Pourim. C'est tout un problème, il faudrait 2 heures pour l'élucider, peut-être à Pourim. Mais en fait, cette analogie entre Pourim et Kippourim est très profonde parce qu'elle dépasse le vocabulaire. Tout simplement parce que Pourim, c'est un mot persan, alors que Kippourim est un mot hébreu. Donc on ne peut pas se borner à ce jeu de mots de Pourim, de dire que Pourim c'est comme Kippourim, parce que Kippourim c'est comme Pourim. On ne peut pas se borner à ça. Il y a donc une raison beaucoup plus profonde qui fait que ce midrash dit ça. Que le jour de Kippour est le jour de l'expiation, est le jour de la rédemption, et je vous dirai le terme kabbaliste, le terme du Zohar, à ce sujet très rapidement, tel qu'il a été enseigné par le Shlah. Je crois que ça vaut la peine de se référer à cela, et j'arriverai à la réponse tout à l'heure. En réalité, pour, le mot pour, pluriel, pourim en persan, a son correspondant hébreu, goral. Goral, c'est le sort, tiré au sort. Et l'analogie entre kippourim et pourim passe par le mot hébreu de goral. Et effectivement, le jour de Kippour, il y avait deux bouc expiatoire, comme vous le savez. Il y avait deux boucs expiatoires pour le sacrifice de l'expiation, et on tirait au sort lequel des deux serait sacrifié dans le temple et lequel des deux serait envoyé au désert. Là, c'est la notion du bouc émissaire, qui est envoyé au désert, portant la rédemption des fautes. Alors, un des deux boucs, ils étaient égaux en principe, un des deux boucs est sacrifié dans le temple, c'est-à-dire escalité, Goral Lachem, et l'autre, c'est Goral Azazel, qui est envoyé au désert. S'il revient, dit le Talmud, s'il revient, il revient. Mais s'il ne revient pas, il est perdu. Et dans l'histoire d'Israël, s'est passé ce tirage au sort, si j'ose dire. Et j'essaierai d'exprimer cela très rapidement de la manière suivante, en me référant à l'enseignement du Shlach. C'est qu'après le temps du roi Salomon, Israël s'est divisé en deux. Israël s'est divisé en deux. Il y a eu le royaume d'Israël, qui est le royaume du Nord, et d'autre part le royaume du Sud, qui est le royaume de Juda. Et comme nous le savons, le royaume du Nord s'est perdu très rapidement. Et il a constitué la couche la plus profonde de la diaspora d'Israël, celle des exilés d'Israël qui ne savent même pas qu'ils sont d'Israël. C'est-à-dire qu'ils sont plus maranes que des maranes. Il y a une quantité d'âmes d'Israël qui travaillent dans l'histoire du monde, nous ne savons pas qui ils sont et eux-mêmes ne savent pas qui ils sont. Ce sont les descendants des dix tribus dont nous savons par tradition qu'ils sont la couche, c'est les Nidahim, ceux qui sont plus que exilés, ceux qui sont à l'extérieur de leur propre identité. Les juifs de l'exil se connaissent comme les juifs. D'ailleurs, il suffit de savoir que l'on est juif dans l'exil pour savoir que l'on n'est pas dans l'exil mais qu'on est en train de revenir. Et tandis que les autres, les Nidahim, ne savent même pas qui ils sont, ils ne savent même pas qu'ils sont des juifs. C'est plus marins que les marins. Et c'est très consolant parce que ça nous permet de comprendre comment les prophéties se réaliseront, parce que finalement il faudra énormément de cadres pour encadrer du point de vue moral l'humanité tout entière. On aura besoin de tous ces grands moralistes qui nous reviendront des dix tribus perdues le jour où cela se dévoilera. Et puis, d'autre part, le royaume de Juda. Les deux sont allés en exil dans le même paysage, dans la même civilisation. C'est la civilisation assyrienne, c'est la civilisation babylonienne qui a occupé et le royaume d'Israël et le royaume de Juda au temps du premier temple. Voilà, le royaume d'Israël s'est perdu, sauf un certain nombre de traces des dix tribus, un certain nombre de familles qui se sont adjoints aux Judéens, qui se sont adjoints aux Juifs en Babylonie et qui sont revenus avec Ezra et Néhémie pour fonder le deuxième royaume de Juda. Leurs noms nous sont laissés dans les livres des chroniques. Il y a des traces dans le peuple juif qui est les descendants des Judéens. Il y a des traces aussi des tribus, des dix tribus de l'ancien royaume d'Israël. Et puis, finalement, nous savons que lorsque le temple existait, le rite de la rédemption de Kippour, le rite de la rédemption, eh bien, avait pour objet l'expiation des fautes involontaires. Étant donné que le judaïsme, la Torah, est une religion de la loi, il est donc nécessaire que chaque fois que la loi a été violée, sans qu'il y ait intention de la violer, et cela c'est le jeu de la vie qui l'entraîne, je schématise beaucoup, mais je vous renvoie à des analyses extrêmement importantes, il est normal qu'une religion de la loi ait comme liturgie principale la liturgie de la rédemption. Enfin, je m'explique parce que je crois que le problème est important, étant donné que la valeur de la conscience dépend de son homogénéité avec la loi, étant donné que la vie est une perpétuelle violation de la loi, la vie de la conscience serait insupportable s'il n'y avait pas une liturgie de l'expiation, elle est journalière d'ailleurs et finalement annuelle le jour de Kippour, de telle sorte d'être débarrassée des remords inutiles, des fautes qui n'ont pas été faites avec intention. Bien entendu, c'est une liturgie qui n'a sa valeur que dans la mesure où elle s'adresse à une conscience de bonne foi. Par conséquent, lorsque la société d'Israël est groupée en société autonome, étant donné qu'elle est la société de la Torah, par conséquent, sa liturgie principale est celle du temple, de l'expiation, des fautes involontaires. Est-ce que c'est bien clair? Et lorsque le temple est détruit, alors l'identité d'Israël est atteinte très profondément, parce qu'Israël ne dispose plus de cette fonction de l'expiation. Alors, selon la tradition talmudique et zoharique, c'est l'exil qui remplace le temple en tant que fonction d'expiation. Effectivement, déjà dès les derniers prophètes, c'est surtout dans Malachi qu'on trouve cette expression, que dans l'exil, il y a Mikdash Me'at, partout où il y a l'institution de la communauté juive, il y a un petit quelque chose qui est en petit ce que le temple était. L'exil et le fait de la vie de l'exil se substitue à la fonction expiatrice du temple. Or, nous voyons que les deux parties d'Israël, à la destruction du premier temple, les deux parties ont été exilées. Et se reproduit, si vous voulez, à l'échelle de l'histoire de la société, la même cérémonie, si j'ose dire, mais au niveau de l'histoire, que la cérémonie de Kippour, de l'expiation de Kippour, où il y a deux boucs expiatoires, mais l'un est envoyé on ne sait pas où, alors que l'autre réalise le sacrifice de l'expiation ex qualité. Ces deux séirim représentent, ces deux boucs différents, représentent bien évidemment, dans le thème du Midrash que je vous cite, les deux royaumes, le royaume d'Israël, qui est perdu dans le désert, on ne sait pas où il est, l'ancien royaume d'Israël, ça c'est Sa'ir Azazel, alors que le royaume de Juda, lui, il est Sa'ir Hashem, puisqu'il se reconnaît dans son identité de façon dévoilée, de façon dénommée et identifiée. Voilà la correspondance profonde qu'il y a entre Purim et Kippourim. Alors le jour de Purim commémore le salut de la communauté des Judéens, alors que la communauté des anciens Israélites avait complètement disparu. Il y a là, en préfiguration, une projection messianique sur Purim, c'est à la fin des temps, Purim aura une valeur messianique plus grande que Hanouka. Mais pendant tout le temps de l'histoire, c'est Hanouka qui a une valeur messianique plus grande que celle de Purim. C'est-à-dire, à la fin des temps, le Purim ultime, si vous voulez, sera celui de l'ultime délivrance d'Israël de l'exil. Ce Purim-là, de la fin des temps, aura la même valeur que Kippour. Voilà, si vous voulez, grosso modo, le problème de cette analogie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui.
Je voulais vous poser ma question sous l'angle de la confrontation de l'éthique juive à l'histoire telle qu'elle se fait, et du problème de son inadéquation. La formule un peu sous forme métaphorique. Et je la ferai partir de la partie de votre exposé qui mettait en parallèle les droits de l'homme et en quelque sorte la justice telle que l'entend Israël. Alors, que faut-il, pour quelle voie faut-il opter ? Est-ce que c'est pour la justice d'Israël qui préfère Jacob à Ésaü en vertu d'un droit d'aînesse ou bien la justice humaine qui confronterait Jacob et Ésaü dans leur action sans référence à un système de valeurs qui pose l'un comme juge de l'autre ? Et ne voyez-vous pas dans les révoltes contemporaines contre la justice bourgeoise une telle prise de conscience, c'est-à-dire la prise de conscience qu'une justice fermée dans un système est un alibi au service d'un groupe qui veut ainsi dominer un autre.
Mais écoutez, je crois que si j'ai bien compris votre question, d'ailleurs c'est effectivement une question qui est à sa place dans cette analyse, je crois qu'on pourrait répondre de la façon suivante. C'est que précisément, le défaut, la faiblesse de la mentalité philosophique quant à la morale consiste la plupart du temps à confondre la morale et la légalité. Et je crois qu'il ne faut pas confondre la morale et la légalité. C'est au niveau de la légalité que finalement, très souvent, vous avez cité le cas de la morale bourgeoise, que très souvent, tel ou tel groupe humain s'accapare de la lubie de la conscience morale pour servir des intérêts particuliers. Mais il s'agit de la légalité d'un groupe et non pas de la morale à l'échelle de l'identité humaine et de sa dignité à l'échelle universelle. Je crois que c'est cette distinction qu'il faut établir. Et effectivement, la mentalité juive s'est toujours opposée à cette sorte d'éthique où la morale devient en réalité la légalité et où la vertu, c'est, si vous voulez, est définie comme étant l'adéquation à la légalité et non pas à la moralité. Et effectivement, la légalité peut être fabriquée par chaque groupe humain au mieux de ses intérêts, et je pense qu'effectivement, toutes les légalités sont fautives par rapport à la moralité. Je crois qu'il y a, c'est à étudier, bien entendu, à travers l'histoire, mais c'est très frappant dans les analyses que nous trouvons dans les textes talmudiques, notamment dans la Masechet de Baba Batra, il y a une page extraordinaire à ce sujet, je vous en citerai l'essentiel, c'est que la seule société qui a décidé une fois pour toutes qu'elle n'aurait pas d'autre légalité que la moralité a été la société d'Israël. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Enfin, c'est à propos, je crois que c'est vers la page 10 de Baba Batra, c'est à propos du verset « Tzedaka teromem goy V'chesed leumim chatat. C'est-à-dire dans une société où ce n'est pas la moralité qui est la justice, où ce n'est pas la moralité qui est la loi juridique, où ce n'est pas la moralité elle-même qui est la légalité, il n'y a aucune société humaine comme cela jusqu'à présent. Eh bien, même la charité, c'est un crime. Parce que la charité, c'est un alibi pour ne pas faire la justice. Vous voyez, par exemple. Et cette analyse se trouve exactement dans le Talmud, et d'ailleurs en hébreu, chesed peut signifier soit charité, soit crime. Et cela dépend du contexte. Il y a une autre question.